France Inter.
L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagny à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Mélissa Étroit à la console.
Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune pour lors qu'il soit vrai, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Vous l'avez sans doute deviné, c'est de Descartes que nous allons parler, hein, Descartes souvent dénaturé, et nous nous demanderons pourquoi. Et puis il y a l'histoire de son crâne, un crâne en crise d'identité, celui qui porte même un numéro d'inventaire que l'on peut voir au Musée de l'Homme, mais est-ce bien son crâne? Deux invités pour en parler, la philosophe Laurence de Villers, autrice d'un Que sais-je consacré à Descartes, et Daria Schmidt qui publie une bande dessinée intitulée La tête de mort venue de Suède. Laurence de Villers, la postérité n'a pas servi forcément Descartes. Vous écrivez dans votre Que sais-je donc que l'on a dénaturé pour vous ce qui est le... On l'a dénaturé parce que pour vous c'est le cinquième mousquetaire.
En fait, le cartésianisme a fait beaucoup de mal à Descartes. Hmm. Et qu'il faudrait d'une certaine façon retrouver Descartes sans le cartésianisme ou contre le cartésianisme même. Alors je dis le cinquième mousquetaire d'abord parce que c'est son siècle, hein, c'est le 17e siècle, et puis parce qu'il a une vie rocambolesque. Enfin, Descartes n'est pas uniquement cet homme isolé qui va penser tout son système de philosophie en lien avec personne, comme une sorte d'ermite. D'abord, avant d'avoir ce projet-là, il a une vie de soldat, de voyageur, et puis...
Une vie difficile, hein, il était orphelin à l'âge d'un an, enfin... Ça n'a pas été évident, sa vie.
Il a été orphelin, il dit que ça a été douloureux pour lui. Il a vécu en exil aux Pays-Bas. Alors, il a aimé cet exil, il a détesté revenir à Paris, il est revenu que trois fois en France.
Il n'aimait pas l'agitation parisienne ?
Oui, alors il a quelque chose, je trouve, moi j'aime énormément, j'appelle ça quand Descartes dit que Paris est la capitale de la bêtise, il le dit pas tout à fait, mais quand même, il dit quand je suis revenu, il pensait qu'on allait s'intéresser à Descartes, à sa philosophie, et il dit non, on voulait m'avoir comme une panthère ou une bête sauvage, une bête rare, et on n'écoutait rien de ce que je disais, et c'est ça Paris. Ben voilà, il a détesté revenir en France, il a été en butte quand même toute sa vie avec les institutions, l'église catholique, les sectes protestantes, les universités. Donc Descartes, c'est un rebelle en réalité. Il rentre dans...
Subversif.
Subversif absolument. Il rentre dans aucune case. C'est pas un prof de philosophie, donc c'est intéressant. Il est très mal compris d'une certaine façon dès le début. Il a un élève qui très vite aux Pays-Bas s'enthousiasme pour sa philosophie. Et en fait, qui est trop radical, et Descartes va donc renier un des seuls élèves qu'il ait, mais on imagine que très tôt, ça a été une philosophie d'école, très froide, sèche, d'un rationalisme étroit. Et en fait, Descartes, c'est tout le contraire. Donc il faudrait vraiment retrouver Descartes contre toutes les images, la plupart fausses, qu'on peut en avoir.
Bah, on va essayer de le faire, en tout cas, vous êtes enthousiaste, il vous plaît.
Oui, je l'ai aimé très longtemps avant de le quitter pour Pascal, mais on quitte pas vraiment Descartes.
Daria Schmidt, vous publiez, je le rappelle, un roman graphique, un récit onirique et savant sur les péripéties du crâne de Descartes. Mais avant de parler de votre BD, dites-nous ce qui vous plaît chez lui et en quoi il résonne, alors R-E et pas R-A-I, avec notre époque.
Le fait d'appliquer le doute à tout ce qu'on, tout ce qui nous environne est quelque chose de très utile actuellement, quoi. C'était un des moteurs de mon désir de faire cette bande dessinée. De passer tout au crible du doute, hein, surtout dans un moment où notre actualité est toujours malmenée par les fake news, je trouvais que Descartes était bon de le ramener avec nous à ce moment-là.
Et tout a commencé dans une brocante pour vous?
Alors pour moi, tout a commencé dans, vous savez, le livre dans le 15e, le marché du livre ancien. Mmh. Il y a de très très beaux livres, des Jules Verne d'époque, vraiment des beaux manuscrits. Bon. Et moi, je suis tombée en arrêt devant un livre à 1 euro, parce que j'aimais bien l'étiquette 1 euro. Et il s'agissait d'un livre qui retraçait les histoires de reliques célèbres. Mmh. Et il y avait un entrefilé sur le crâne de Descartes. Et l'histoire du crâne était tellement délicieuse, tellement rocambolesque, surtout quand on sait que le doute était son outil et qu'il s'est appliqué à son crâne pendant presque 300 ans, je me suis dit que c'était le début d'une très bonne histoire.
Et dans le crâne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cerveau, hein, Laurence de Villers.
Ah oui, d'abord, l'histoire du crâne, effectivement, c'est rocambolesque.
Elle est formidable, sa BD, non? Vous avez aimé?
Ah, cette BD est non seulement très belle, mais très juste. C'est-à-dire que vous permettez justement qu'on retrouve ou qu'on découvre un Descartes qui n'est pas ce Descartes, encore une fois, qui ressemblerait, j'ai rien contre les petits fonctionnaires, hein, j'aimerais bien l'être moi-même, mais qui ressemblerait à un petit fonctionnaire enfermé dans son bureau et qui connaîtrait rien du monde et qui n'aimerait pas. Enfin, vous avez fait un crâne ou un Descartes amoureux. Du monde, de la nature, de la luxuriance de la nature, de ses bizarreries, et ça c'est très juste. Donc merci. Et alors le crâne c'est déjà une histoire, mais vous la connaissez mieux que moi, rocambolesque.
On va en parler tout à l'heure.
On va en parler. Mais moi ce qui m'intéresse et que je pense fondamental chez Descartes, c'est ni l'âme, ni le corps, ni l'esprit, c'est en fait le cerveau. Le cerveau, c'est la notion clé de la philosophie cartésienne.
Le philosophe Pierre Guénantia, auteur de plusieurs essais sur Descartes.
Alors voilà une deuxième idée de l'enfance chez Descartes. C'est pas l'enfance historique, c'est pas le moment où je suis né, mais c'est le moment où je décide de me prendre en charge. C'est-à-dire, c'est le moment où je décide de donner congé aux maîtres, aux précepteurs, aux parents, de leur donner congé, de leur dire que jusqu'à présent, ça va, bon, ils m'ont aidé à vivre, mais pas forcément à penser. Ils m'ont aidé à me débrouiller dans la vie, mais ils ne m'ont pas particulièrement aidé dans ce qui paraît être à Descartes, au fond, le but principal de l'homme, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Cette recherche, il faut en reprendre l'initiative et la commencer tout de nouveau dès les fondements. Vous connaissez l'expression fameuse de Descartes, dans laquelle on peut voir comme une sorte d'enfance recommencée, opposée à l'enfance historique. Et donc, il n'y a pas du tout de mépris de l'enfance. Il y a plutôt, si vous voulez, chez Descartes, une tentative pour récupérer ce commencement perdu et en faire un véritable commencement, un deuxième commencement.
Laurence de Villers, c'est à partir du moment où on pense par soi-même, au fond, qu'on sort de l'état d'enfance?
L'enfance, ça veut dire pour Descartes une période, mais qui peut nous rattraper à l'âge adulte, ou une période de laquelle on peut très bien ne jamais sortir, une période où d'autres pensent pour nous. C'est ça que ça veut dire, l'enfance. D'autres pensent pour nous, et enfance, étymologiquement, ça veut dire sans langage. Où d'autres nous donnent les paroles qu'il faut avoir. En réalité, on peut très bien, et de nos jours, je pense que c'est très important de le dire, répéter des paroles qui sont pas les nôtres, avoir des idées qui sont pas les nôtres, et en boucle, et de manière virale, et à un moment donné, ça ne pense plus. Et c'est ça que veut dire Descartes. Ce qui m'a passionné dans Descartes, assez jeune, sans rien comprendre, hein, mais je l'ai lu jeune et j'ai aimé sa liberté. Sa liberté fondamentale. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui seul dit, alors qu'il a fait des études dans un des meilleurs collèges en Europe, le Collège de la Flèche, dit, on ne m'a rien appris. Et si je veux apprendre quelque chose, il faut oublier la mémoire et la tradition, et même l'enseignement, il faut tout seul, à main nue, face nord, tout reprendre.
Moi, sauf que c'est pas facile de révoquer finalement toutes ces croyances anciennes qu'on vous a apprises.
Ah mais vous avez raison, il y a rien de plus difficile. Et puis encore une fois, je pense que le philosophe dont notre époque a besoin, c'est vraiment Descartes. Ce Descartes dont on est en train de parler, parce que Descartes va montrer que penser est peut-être la chose qu'on fait le moins souvent. Et pire que ça, c'est peut-être la chose qu'on a le moins envie de faire, parce que penser demande justement d'être seul, mais de cette solitude intellectuelle qui est « je ne vais pas m'asseoir sur des croyances, des pensées toutes faites, même des pensées claniques, les pensées de mon groupe, de ma communauté, de mon clan, je vais être seul ». C'est ça l'expérience du cogito, d'abord. C'est cette solitude fondamentale et précieuse dans laquelle seule peut naître la pensée. C'est ce qu'on appelle esprit critique de nos jours ou pensée par soi-même. S'il y a un seul guide, c'est Descartes.
Daria Schmidt, d'abord j'ai senti que j'avais une tête. Ça c'est ce qu'il écrit dans la sixième méditation. Je fais ma savante, mais c'est parce que je l'ai lu.
Oui, et cette tête, pour moi c'est ce fameux crâne. Ce crâne de Descartes avec lequel on circule à travers tout un pan de l'histoire des sciences et puis de notre histoire. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de résonance entre les méditations et ce qui se passe après, que voilà, là encore, l'histoire s'est construite presque sans moi. L'apport là-dedans, dans la tête de mort venue de Suède, c'est la relation...
Ça, c'est le titre de votre BD. Hein,
voilà, c'est le titre de ma BD, mais c'est aussi l'ordre du jour à l'Académie des sciences, quand le crâne de Descartes est arrivé en 1821 sur le bureau de Cuvier. C'est pas moi qui ai inventé le titre, je tenais beaucoup à ça, même si c'était un titre à rallonge, je l'ai quand même imposé.
Mais la tête, elle pense évidemment, et encore, ils nous recommandent pas de penser 24 heures sur 24, ils disent que quelques heures dans une année suffisent.
Ah non, surtout pas, c'est ça, on est beaucoup trop cartésien, très souvent on est des ultra-cartésiens. C'est que Descartes dit, il faut... consacrer quelques heures seulement à la pensée seule, donc aux choses intellectuelles, et puis la métaphysique, c'est même un quota par an. Donc en réalité, la première idée fausse, c'est de se dire que l'homme cartésien est un pur esprit qui ne fait que penser, un pur intellectuel qui n'est pas ouvert, ni l'esprit ouvert et qui n'est pas ouvert sur le monde. Vous savez, très souvent, cette expression « oui, mais moi j'ai l'esprit cartésien, mais moi qui suis cartésien ».
Bah, et on dit que les Français, enfin, il a pesé sur la façon de penser en France, non ?
Alors, ça c'est intéressant, parce que en réalité, on le disait, Descartes a vécu près de plus de 20 ans aux Pays-Bas. Donc en fait, il a énormément aimé vivre aux Pays-Bas, même s'il a eu plein de problèmes avec les théologiens protestants. Mais il n'a pas aimé revenir en France. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois Descartes, ce n'était pas un philosophe français, d'une certaine façon, c'est un philosophe néerlandais qui a vécu aux Pays-Bas. Mais en même temps, effectivement, et beaucoup l'ont dit, et très tôt, et y compris dans son siècle, il a pesé sur... d'abord la langue française. D'abord, il faut toujours chercher le choc quand on lit de la philosophie. Il ne faut pas faire semblant qu'on va comprendre, etc. Il faut accepter le choc que représente un texte de philosophie et le texte de Descartes. Il y a ce choc du texte, mais il y a aussi le choc quand vous avez lu Montaigne, par exemple, avant. Dans le temps, ils ne sont pas si éloignés, mais c'est totalement autre chose. C'est une toute autre langue. Descartes invente cette langue claire, faussement limpide, parce qu'elle est très profonde, claire, précise. On a l'impression au départ que quand on lit un texte de Descartes, on est dans un jardin à la française. C'est une mise en ordre. Il y a une idée, un mot. Il n'y a pas d'équivocité, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est... Quand on le lit au départ, on se dit on va comprendre. Et puis d'ailleurs, il a eu cette critique. Plus tard, on a dit, mais enfin quoi ce cogito ? Enfin franchement, il a fallu qu'il s'isole pour nous dire quelque chose de si banal. Si je donne un exemple, c'est le jardin à la française ou la colonnade du Louvre, d'une certaine façon. Cette espèce de symétrie qui est tellement parfaite, semble-t-il. Alors la pyramide gâche un peu la vue quand même, mais qui semble tellement parfaite qu'on est pris de vertige. Et c'est ça la beauté, je trouve, de cette langue.
Et ça n'exclut en rien le fait d'imaginer, de rêver, parce que ça aussi, c'est très présent dans votre BD, Daria Schmidt. Il aimait ça.
Il aimait ça, mais c'est dans le terme méditer, je trouve, méditer, rêver. À la lecture de Descartes, enfin que j'ai relu, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est obligé de lire très lentement. Il faut s'arrêter sur chaque mot. En effet, ça a l'air simple comme ça, et c'est ce rythme qui est très particulier et qui parfois il faut s'accrocher à cette lenteur et se souvenir en même temps qu'on lit, se souvenir de ce qu'il a dit juste avant. Donc on est plongé dans un rythme totalement différent. C'est un rythme aussi qu'on a quand on dessine. C'est en tout cas le dessin que je pratique, très très lent, très ouvragé comme ça. Donc ça collait bien la réflexion. Et puis ce rythme du dessin, voilà.
Ah, c'est tellement juste, parce qu'il faut quand même dire que Descartes, et plus personne l'a fait après lui, a appelé son grand livre « Méditation métaphysique ». La philosophie, ça se médite.
Laurence de Villers, vous signez donc un René Descartes aux éditions Que sais-je. Vous êtes l'invité de leur philo, ainsi que Daria Schmidt, qui est l'autrice donc d'une BD intitulée La tête de mort venue de Suède. Ça s'est publié à l'air libre. Une chanson de circonstance. Anne Sylvestre, Les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, et qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
L'argument majeur, c'est d'abord que Descartes est la ville natale de René Descartes et qu'elle possède aujourd'hui l'unique musée au monde consacré à René Descartes et qui est reconnu musée de France et qui a été complètement réhabilité et rénové en 2005.
Le musée Descartes, le voilà, c'est sa maison natale. Depuis la mort de René Descartes en 1650 à Stockholm, ses ossements ont été séparés. Son corps est à Saint-Germain-des-Prés et son crâne ne doit son retour dans l'hexagone qu'au savant suédois Jacob.
Ce crâne étalé a été donné par ce savant suédois à notre savant français Georges Cuvier, lequel paléontologiste, lequel l'a donné au Musée de l'Homme pour l'exposition universelle de 1937. Donc voilà notre crâne de Descartes arrivé en France et à l'exposition de universelle, là, aux yeux, aux vues et de tout le monde.
Le musée possède aujourd'hui le moule de son crâne où apparaissent le nom des propriétaires successifs. Prochaine étape, récupérer l'original.
Alors, dans l'histoire du crâne de Descartes, tout est sujet à caution. Donc, on va essayer de s'y retrouver, peut-être d'une manière déjà chronologique, Daria Schmidt, puisque c'est évidemment le fil conducteur de votre BD. D'abord, donc, aujourd'hui, on peut le voir au Musée de l'Homme à Paris. Il y est depuis 1910. Il y a eu la Grande Crue de la Seine. Hein, c'est à ce moment-là qu'il a été déménagé là. Bon, si on repart de la mort de Descartes, 11 février 1650, il meurt à Stockholm. Il faut dire qu'il était
invité de la reine Christine contre son gré, d'une
contre
certaine
son
façon.
Gré.
Voilà. Il n'avait pas du tout envie d'y aller, il n'a pas aimé y être, il disait que ses pensées gelaient aussi bien que l'eau dans ce pays-là.
Et d'ailleurs, il est mort.
D'une pneumonie.
Et il n'a pas été. On a dit qu'il avait été empoisonné.
L'hypothèse, longtemps d'ailleurs, et qui a été réactivée, Daria le dira, au XXe siècle, d'un empoisonnement à l'arsenic.
Vrai
tout
ou faux?
On a essayé d'analyser les eaux qui sont à Saint-Germain et il n'y a pas d'arsenic dans les eaux parce qu'apparemment l'arsenic reste dans l'os. Par contre, on n'est pas sûr du tout que les ossements qui sont à Saint-Germain soient ceux de René Descartes.
Donc, alors ça c'est parce que c'était pendant la Restauration, donc Saint-Germain, l'histoire de Saint-Germain, je ne me trompe pas.
Alors,
quand est-ce que ces eaux? Parce qu'ils en ont fait du chemin. Hein.
Oui, ils ont fait du chemin. 1650, donc il meurt à Stockholm et il est enterré dans un cimetière. Il pouvait, comme catholique, il ne pouvait pas avoir un bel enterrement. Donc on l'a mis dans un cimetière qui était consacré aux enfants morts avant l'âge de la raison, déjà.
C'est incroyable. C'est fou.
C'est déjà un premier cadeau pour un scénariste.
Alors 16 ans plus tard, donc sa dépouille est rapatriée en France dans une boîte en cuivre, c'est ça?
Alors on dépêche une ambassade pour essayer déjà de négocier avec la Suède le fait qu'on rapatrie notre grand homme qui n'était pas encore complètement en odeur de sainteté mais qui commençait à avoir quelques amis en France. Donc 1666, on l'exhume, on le met dans une petite boîte en cuivre de 80 cm. Et avant ça, évidemment, il est un peu exposé à l'ambassade de France, avant sa mise dans cette fameuse boîte.
La boîte qui a été ouverte par les douaniers quand il est arrivé en France.
Voilà, et puis quand il est exposé à l'ambassade, que s'est-il passé? On n'en sait rien. Ouais. En tout cas, il finit dans cette boîte en cuivre de 80 cm, parce qu'un long voyage l'attend, et que ce voyage est un peu dangereux. On a peur que les Anglais nous chipent la dépouille de Descartes.
Donc, comme d'habitude.
Voilà, comme d'habitude. On le met dans un ballot de linge, le petit cercueil, et pendant 3 mois, il circule dans toute l'Europe du Nord.
Après, bon, il y a tout, on va pas tout détailler, mais la boîte est déposée à l'église Saint-Paul, puis ensuite à Sainte-Geneviève, puis ensuite là, on va sauter un siècle, on passe en 1793, il est au couvent des petits Augustins,
voilà.
Et il y a même la possibilité de le transférer au Panthéon, à ce moment-là, il en
oui,
est question?
Oui, absolument.
Ouais.
Parce que là,
c'est même décidé.
Exactement, c'est signé, le décret est signé.
Ben, ça n'a pas été exécuté. C'est pour ça que vous disiez Descartes, philosophe français. Enfin, la France n'a jamais su véritablement que faire et du crâne de Descartes et de ses ossements et de Descartes lui-même, d'une certaine façon. Ça a été décidé en 1793, donc Descartes serait panthéonisé. C'est pas exécuté. Et puis on a réactivé ça au XXe siècle.
Et on pourrait le
21e même, 21e, pardon, excusez-moi. Ouais. Et en 2010, je crois, moi j'avais même signé une pétition, un article pour qu'il soit au Panthéon en me disant je suis pas certaine que Descartes ait envie d'être panthéonisé, mais en tout cas la France a jamais su vraiment que faire de Descartes.
Bien, alors après, donc 1819, il y a la Restauration, là il arrive à l'église de Saint-Germain-des-Prés, et que se passe-t-il?
Eh bien, quand on transfère les restes donc, qui étaient au musée des monuments historiques après la Restauration, et quand on transfère les ossements, de l'ambre est présent, et il trouve que, franchement, il ne reste pas grand-chose dans cette boîte.
Donc manque le crâne?
Ah, tout. Il a vaguement quelques os plats. C'est une poudre douteuse, écrit-il. Voilà. Et donc, il se fend d'un rapport, mais qui reste comme ça un peu confidentiel.
Alors, après Delambre, 2 ans plus tard, Georges Cuvier, donc le célèbre anatomiste, reçoit un beau jour en pleine
dans une boîte à chapeau.
Dans une boîte à chapeau, au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est ça?
Il reçoit cette boîte à chapeau qui vient de Suède. Mmh. Et dedans, il y a le crâne de Descartes.
Vous êtes sûr que c'était son crâne?
Ah, moi, je vais épouser le point de vue de Georges Cuvier, qui a toujours été convaincu qu'il s'agissait bel et bien du crâne de Descartes, selon le fameux principe de la parcimonie, parce que quand on refait cette histoire, quand est-ce que le crâne a été décollé du reste du corps? Voilà, c'est toute la question est là.
Et qui l'a fait?
Et à quel moment ça s'est passé? Avec tous ces enterrements successifs, on aurait pu s'apercevoir déjà qu'il manquait un crâne. Mmh. Mais apparemment, lors de l'enterrement à l'église Sainte-Geneviève, on n'a pas défait le ballot. Mmh. On a remis la boîte en cuivre dans un autre cercueil. Mais voilà, il ne reste plus rien de Descartes. Et on se pose la question, puisqu'il s'agit maintenant d'en faire une pièce de musée, de faire entrer ce crâne dans les collections, il s'agit de l'authentifier.
Mais alors, comment est-ce qu'on l'authentifie? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des nouveaux moyens aujourd'hui pour le faire?
Alors actuellement, Pas encore. Voilà. Déjà, c'est devenu une pièce de musée.
Ça veut dire qu'on peut pas le sortir comme ça.
Ça veut dire qu'on peut pas le détruire pour essayer de trouver de l'ADN. Ensuite, ça fait quand même 300 ans de manipulation intense. Donc, il est couvert d'ADN.
Il y a un poème écrit sur.
Il y a un poème sur son front. Chaque possesseur du crâne successif du crâne de Descartes, il a même appartenu à un directeur de casino.
Tout le monde a touché sur son front.
Alors, les collectionneurs ont mentionné leur nom.
Absolument.
Et puis, il y a un poème qui est, alors de mémoire, ce petit crâne a appartenu au grand René Descartes et son esprit se réjouit encore dans la sphère des cieux.
C'est ça. Je me souviens plus exactement. Il était en latin d'ailleurs. C'est une traduction.
Oui, c'était en latin. Mais je pense qu'il y a eu des collectionneurs effectivement qui se sont dit pourquoi ne pas collectionner le crâne des Descartes. Il y a même un Français qui était responsable du patrimoine qui a pris un os plat et qu'on a fait des bagues pour ses amis.
C'était le noir quand il a justement récupéré après la Révolution ce qui restait des ossements de l'église Sainte-Geneviève. Donc, chacun pique dans la caisse. De Terlon, quand il va chercher Descartes en Suède, il lui prend son index droit. Et il le garde comme un bien de famille parce que c'est avec cet index.
Et il lui dit, c'est avec cet index qu'il a écrit.
Exactement. Donc, la relique, voilà, un statut très différent.
Il y a des héritiers de Descartes, enfin, des gens de sa famille, non pas direct, puisqu'il avait une fille, mais qui n'a pas survécu, qui est morte jeune. Et d'ailleurs, je crois que ça a été
le plus grand chagrin de sa vie, dit-il, Francine.
La petite Francine, qu'il avait eue avec
sa servante Elena. Néerlandaise.
Mais il avait un frère.
Il avait des frères. Oui. Il avait des
frères. Donc il y a des descendants.
Il y a sans doute des descendants.
Quand je dis des héritiers, sont plutôt des descendants d'ailleurs.
Oui, voilà. C'est pas la ligne directe. Il y a des descendants, mais c'est pas très clair là. J'ai essayé de voir.
C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Donc pour l'instant, il y a rien d'évident là-dessus.
En tout cas, le crâne n'est toujours pas authentifié formellement.
Formellement, non.
Il y a dit de Descartes.
Oui.
Imaginez si c'est pour la personne à qui est appartenu ce crâne. Si ce n'est pas Descartes, quelle célébrité.
Absolument.
Quelle postérité.
Et surtout quand même, quelle célébrité. Mais en même temps, Descartes est enterré maintenant à Saint-Germain-des-Prés, dans l'église Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, dans le 6e. Et je ne suis pas certaine qu'on le sache vraiment. Moi, je dis, c'est presque une tombe incognito, alors peut-être que ça lui aurait plu. Il est coincé entre deux moines. Ça, je ne suis pas certaine que ça lui aurait vraiment plu. Mais voilà, il y a un Descartes qui est en France sans y être. Et ça correspond à cette histoire, on le disait. Descartes est quand même à quitter la France pour pouvoir philosopher en toute tranquillité et repos, dit-il. Ils sont deux biens que personne ne vous donnera à part vous-même.
En tout cas, l'ensemble, comme vous le dites, Daria Schmidt, tient à la fois de la danse macabre, du récit picaresque et des mille et une nuits.
Oui, des mille et une nuits, c'est parce qu'il entre en dialogue avec les squelettes de la galerie d'anatomie comparée de Georges Cuvier. Et donc là, c'est toutes sortes de récits à tiroir, comme ça, qui confrontent le crâne de Descartes avec les animaux, puisque ça a été, en tout cas, c'est lui qui a mis le pied dans la porte de la notion d'animal-machine.
Et les animaux se moquent bien de lui, de lui rendre.
Exactement. Mmh. Et en plus, lui, il ne reste plus qu'un crâne, alors que ce sont des squelettes entiers. Donc, c'est une sorte de récit comme ça, nocturne. Donc ça tient des mille et une nuits, en effet.
Le philosophe et académicien Jean-Luc Marion.
Dans la méditation, Descartes dit à deux reprises que l'homme porte en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Il le dit à la fin de la troisième méditation, où il s'agit là de la faculté en général par laquelle je me perçois moi-même. C'est-à-dire la faculté par laquelle je performe le cogito, qui est aussi la faculté par laquelle je perçois l'idée d'infini. Et puis, seconde occurrence, Descartes dit que je porte en moi l'image et la ressemblance de Dieu dans la volonté et dans le libre arbitre, c'est-à-dire la volonté telle qu'elle est une faculté d'affirmer ou de nier, prise formellement, c'est-à-dire indépendamment de la puissance dont je dispose de réaliser mon affirmation ou ma négation. Et ceci est affirmé au terme de la quatrième méditation. Et très naturellement, lorsque Descartes veut définir ce qui pourrait servir de souverain bien, il va s'appuyer sur ce qui, dans l'itinéraire métaphysique, est en quelque manière le sommet du développement de l'ego cogito, ce par quoi l'ego cogito est au plus près de Dieu, c'est-à-dire la faculté, ou plutôt l'état des facultés le plus noble de l'homme. C'est donc une méditation sur le libre arbitre, c'est-à-dire la volonté prise au sens formel, qui va être la racine de la construction de la morale et de la montée vers une définition du souverain bien.
Quelque chose me dit, Laurence de Villers, que vous n'êtes pas complètement d'accord avec Jean-Luc Marion.
Non, alors, peu importe, ça intéresse personne à part moi peut-être, mais en fait, sur les preuve de l'existence de Dieu chez Descartes, qui occupe quand même beaucoup d'espace et qui ont beaucoup d'importance dans sa métaphysique.
« Je suis pensée de Dieu », a-t-il écrit.
Alors voilà, ce qui est intéressant, et là aussi ça ne ressemble pas, je crois, à ce qu'on a à l'esprit, c'est que, à mon sens, Descartes a vraiment prouvé l'existence de Dieu.
Et comment? Comment est-ce qu'il
Il a prouvé l'existence de Dieu parce qu'il fait d'une manière comme on l'a quasi... Si je veux vraiment faire la snob, je dis que Duns Scott était pas loin de l'avoir fait avant lui, mais en tout cas, on va dire qu'il est le premier à le présenter de cette manière-là. Et pour moi, ça me semble convaincant et définitif. C'est qu'il a dit, en fait, quand je pense, quel que soit l'objet de ma pensée, mais quand je pense, ou quand je me pense moi-même, le fait que je suis en train de penser, je rencontre nécessairement, à un moment donné, une idée particulière, qui est l'idée d'infini, qui est l'équivalent de l'idée de Dieu pour Descartes. Hein. Dieu est le seul à être cet être infini que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas embrasser, que je ne peux pas définir, je ne peux pas en faire le tour. Donc, pourquoi c'est révolutionnaire? C'est qu'on n'a pas besoin de toute une armature de preuves, de démonstrations, en passant par la nature, par exemple, en disant, si le monde existe, il y a bien un créateur, ou alors, regardez cette beauté de l'univers, il y a bien un créateur. Descartes n'en a pas besoin, c'est un minimaliste.
C'est-à-dire, alors, c'est un, comment dirais-je, c'est un, je vais peut-être dire une ânerie, hein, mais c'est un Dieu métaphysique plus que théologique.
Ah, alors, ça c'est une autre
question. Encore autre chose.
En tout cas, je trouve la chose définitive à mon sens, c'est que penser vous amène à penser Dieu, et je me pense moi-même, le vrai cogito cartésien, c'est je suis l'idée d'infini que je ne suis pas, mais que j'ai. C'est ça. Je suis cette idée d'infini. Il le dit à la fin de la troisième méditation quand même. Je suis l'idée d'infini. C'est... Alors, toute la question, et très tôt, a été, mais est-ce que c'est Dieu, ce Dieu-là, c'est le Dieu des chrétiens? Alors, si vous voulez que je réponde, pour moi, oui, c'est ça qui est intéressant chez Descartes. Je crois que c'est le meilleur défenseur du christianisme, en réalité, parce qu'il a réussi, comme personne, à mon sens, une rencontre entre la raison qui pense, l'esprit qui pense, la raison qui pense, la philosophie qui pense, qui a des idées, et la foi qui dit qu'il y a un Dieu. Parce qu'en fait, ce Dieu infini est aussi une idée que l'esprit humain pense. Donc c'est une rencontre entre la foi, le Dieu de la foi, et la philosophie qui pense, comme à mon sens, il n'y en a jamais eu.
Mais c'est Dieu qui décide si je suis dans le vrai ou pas?
Ah, alors ce qui est intéressant, c'est que ce Dieu, c'est pas uniquement une idée qu'on a en nous, il va être la garantie de mon savoir. Parce que comment, ça c'est une question vertigineuse chez Descartes, hein, comment être certain que quand je pense quelque chose, cette chose est réelle? Qu'elle existe vraiment, et que ce que je pense, c'est pas un rêve. Ça, c'est intéressant, vous l'avez dit, mais peut-être qu'on y reviendra. Chez Descartes, il n'y a pas vraiment de moyen de faire la distinction entre la folie, les hallucinations, la perception et le rêve. Hein. Là encore, c'est un Descartes, à l'encontre de ce qu'on a dit. Donc, comment avoir la garantie que ce que je suis en train de penser, 2 plus 2 égale 4, c'est vraiment 2 plus 2 égale 4 de manière absolue? Mais Dieu va être la garantie que ce que je pense est vrai. Pourquoi? Je le dis très rapidement et j'espère schématiquement pour qu'on comprenne. Ces idées vraies en moi, que 2 plus 2 égale 4, que l'infini est Dieu, par exemple, ou que je suis une chose qui pense et rien d'autre. Ces idées vraies, d'où elles me viennent? C'est Dieu qui les a mises en moi. Donc en fait, il faut presque faire un triangle. Il y a Dieu qui met ces idées vraies en moi, c'est-à-dire que quand je pense vraiment, je pense sûrement, ça veut dire ça, hein, si vous voulez pas qu'on dise Dieu. Et puis, l'autre branche du triangle, ces idées... Elles sont le réel parce que Dieu est aussi le créateur du réel. C'est ça.
Mais
le triangle.
Ce que vous dites, Laurence de Villers, rejoint complètement ce qui est écrit à la fin de votre BD d'Aria Schmitt. Il y a un certain nombre d'annexes, dont une signée Denis Combouchner, que nous avions du reste déjà reçue ici dans leur philo. Combouchner qui dit que le Dieu de Pascal, c'est un Dieu infini prouvé à partir de l'idée que nous en avons. C'est exactement ce que vient de dire Laurence.
Oui, absolument. Alors ça, c'est là que je mets mon joker, parce que c'est les parties de Descartes que j'ai essayé de lire et sur lesquelles je me casse régulièrement les dents. J'arrive pas du tout à le suivre là-dessus.
Mais il fait exprès, Daria, ouais. Il fait exprès. En fait, la preuve cartésienne, elle est simple. J'ai l'idée d'infini, l'infini existe.
Voilà.
Le fait même qu'on ait l'idée l'infini, cette idée, on peut pas la fabriquer, on peut pas l'inventer. Elle correspond même pas à un désir que j'aurais d'un Dieu qui me consolerait. Non, le fait même que j'ai cet infini en moi, sous la forme d'une idée que je peux penser. C'est donc la preuve que cet infini existe.
Mais donc c'est complètement différent du... Parce qu'il paraît que j'ai dit Pascal au lieu de Descartes, donc comme quoi si maintenant je me mets à les mélanger. le dieu de Pascal, c'est pas du tout le dieu de Descartes.
Mais
ou
c'est
bien
Pascal.
Ou bien
Pascal va vouloir, bon, le but de Pascal va être un peu différent, mais Pascal va vouloir dire, attendez, ce Dieu dont on parle, ce Dieu autour duquel on raisonne, ce Dieu dont on fait des traités, ce Dieu de Descartes, qui est l'idée d'infini, c'est pas un Dieu d'amour et de consolation. C'est-à-dire, ce Dieu va pas me consoler quand je suis dans la souffrance, et ce Dieu ne va pas me permettre de comprendre que, sans doute, pour Pascal, très certainement, il a envoyé Jésus de Nazareth pour me sauver. C'est ça qui manquerait, selon Pascal, au Dieu qu'il appelle le Dieu des philosophes. Parce qu'il va vouloir montrer que la foi, c'est pas du domaine uniquement du raisonnement, il y a aussi la volonté de vouloir la vérité que la foi nous donne. Et c'est là où il va se séparer de Descartes. Il va dire, c'est très bien de faire des preuves de l'existence de Dieu. Bon, c'est très bien, mais c'est très compliqué. C'est ce que je vous dis, c'est très compliqué. Une fois qu'on l'a lu, on a oublié ce qu'on avait lu. Et ça prouve peut-être Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est pas le Dieu qui viendra vous réchauffer dans vos hivers. C'est ça qu'il va dire à Descartes. Il va dire, il faut quand même un peu plus que des démonstrations. Mais sur le fait que vous disiez, c'est compliqué, faut pas oublier que Descartes, quand on se met à traiter de Dieu, et comme il le fait, qui est d'une manière quand même révolutionnaire, on risque la censure, on risque que la Sorbonne nous tombe sur le dos et fasse que votre livre n'est pas publié. Donc, moi je dis toujours, Descartes est en train de faire de l'enfumage et un écran de fumée. Il utilise un vocabulaire scolastique pour dire quelque chose que jamais les profs de la Sorbonne, la scolastique, auraient dit. Il n'y en a qu'un qui est compris, qui dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? C'est Arnaud, un jeune théologien, sans doute le plus doué de sa génération, qui va être proche des jansénistes et de Port-Royal, qui dit, non mais attendez, là, derrière votre vocabulaire, vous n'êtes pas en train de dire un truc aussi fou que Dieu est cause de lui-même. Et Descartes est embêté parce qu'il pensait que son écran de fumée, ça avait marché. Mais vous voyez, Descartes, c'est le type qui nous trompe le plus, en fait. Vous voyez, quand je disais la fausse simplicité ou limpidité, vous l'avez dit vous-même, ça semble facile, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, je vais le confesser là. Moi, je suis pas sûre d'avoir totalement compris le cogito.
Ah, c'est génial. Elle a écrit quand même un que sais-je consacré à Descartes. Elle est agrégée de philo et elle nous dit qu'elle n'a pas compris le cogito. Alors là, comment voulez-vous que nous, on comprenne ?
Non, mais parce que... D'abord parce que c'est très bien d'avoir encore des choses qu'on ne comprend pas dans la philosophie. Je trouve que moi, c'est ce qui fait que j'ai choisi la philosophie et que je continue à en faire. Mais parce que d'abord, Descartes n'a pas aimé l'expression « je pense donc je suis ». Et il a dit tout autre chose dans les méditations. Et quand on dit cogito, comme s'il avait écrit cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est faux. Il ne l'a jamais écrit, ça c'est une traduction tardive du discours de la méthode, et elle n'est pas de lui. Donc déjà ça c'est une énigme pour moi, il n'a pas aimé, quand je pense qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de réfléchir à je pense donc je suis, il dit lui-même, ça n'allait pas. Et quand il écrit sa métaphysique, il écrit, bon en latin parce que c'est sa langue, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe. Ça c'est tellement plus puissant, et tellement plus difficile.
Notre époque n'aura gardé que le moi-je.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be? And I'm something you said. Now should we change, make an affair? I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know if this could be more? One simple kiss can be so
vraiment dommage, chers auditeurs qui nous écoutez, que vous n'ayez pas entendu la conversation qu'il y a eu pendant ce disque d'Alani entre nos invités, plus à mon avis celle que je devine en cabine. Tout le monde est dans les starting blocks, on se demande ce que c'est, ce que ça veut dire exactement que le cartésianisme et d'être cartésien aujourd'hui. Mademoiselle de Villers, la philosophe.
La liberté. Descartes, c'est le philosophe et l'incarnation de la liberté. Il y a beaucoup de textes que je pourrais citer, mais pour moi, Descartes, c'est l'homme qui appartient à personne, qui est d'aucun parti, d'aucune école, d'aucune université, qui n'appartient qu'à lui-même. Et d'ailleurs, qui fait une morale fondée sur le fait que d'abord, il faut s'appartenir à soi-même. Ça, pour moi, ça a été un guide toute ma vie sur cette revendication farouche de liberté, c'est-à-dire de refuser que quoi que ce soit et qui que ce soit empiète sur la liberté, même si le prix à payer est très fort.
Daria Schmidt, quel est votre point de vue sur
Moi aussi, c'est ce qui m'a fascinée chez Descartes quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, parce qu'avant, je l'ignorais absolument. C'est pas du tout le Descartes qu'on a en cours de philo quand on est au lycée.
Donc, mais vous avez quand même un prof qui vous a redonné à un moment donné le goût de Descartes.
Absolument,
hein,
ça c'était
à
la faculté.
À la fac, oui.
C'était devenu complètement cosmique, son cours. Et je me souviens, enfin, moi j'étais en histoire, mais c'était un cours en plus, comme ça. Et je savais pas qu'on pouvait tirer autant de René Descartes. Donc, j'ai gardé ce souvenir vraiment comme ça.
Bravo.
Et la liberté,
prof.
En effet. Oui, absolument. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qui m'a fascinée chez lui. C'est quand même aussi pour moi la méthode, c'est-à-dire une façon de raisonner et de prendre les problèmes. Voilà, ça, je pense que ça peut être applicable à tout. Et c'est quelque
la
chose...
Rigueur.
À... Oui,
la rigueur. La rigueur. Mais c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas contradictoire avec la liberté. On n'est jamais aussi libre que quand on a les pensées claires.
Et il a pensé aussi avec les autres, parce qu'évidemment, on pense à Spinoza et sa bande de copains, je dis copains évidemment avec 36 guillemets, mais pour élaborer l'éthique. Descartes, vous le disiez tout à l'heure, il est parti de Paris, il a peut-être quitté certains amis, mais il a quand même beaucoup correspondu toute
alors,
sa vie.
Alors, il était en lien, Descartes fait partie de l'Europe savante, donc il était en lien avec des tas de personnes qui étaient restées à Paris, mais partout en Europe, et puis surtout, il a inventé un genre qui n'a jamais plus était utilisé en philosophie, c'est que quand il a publié ses Méditations métaphysiques, donc son grand œuvre, il a voulu que ce soit accompagné d'objections qu'on lui ferait et des réponses qu'il ferait.
Donc un peu à la méthode spinoziste.
Il a inventé un genre. Plus personne n'a écrit de la philosophie où les gens qui vous objectaient des choses sont publiés en même temps que vous.
Et puis, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé des animaux-machines. On en dit quand même un mot. Et puis, moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les passions. Je ne sais pas si on a le temps. Les animaux-machines, allons-y. D'abord, est-ce que c'est lui qui a inventé l'expression l'animal-machine? Parce qu'on lui a reproché d'avoir finalement fait des expériences sur les animaux, de les avoir fait souffrir. Et de ne pas les considérer comme faisant partie, comme on peut le faire maintenant, de ce qu'on peut appeler le vivant.
Alors, Patricia Martin, merci. Parce que
Mademoiselle de Villers, je vous en prie.
Parce que sur cette question, il y a quand même énormément de contresens. Animaux-machines n'est pas une notion de Descartes, mais de ses élèves qui ont radicalisé sa pensée, et notamment de Malebranche. Ce que Descartes va dire sur les animaux, c'est beaucoup plus précis, passionnant et, à mon avis, révolutionnaire que ça. Ça va même à l'encontre de ce qu'on dit. Il y a deux choses. La première, c'est que Descartes ne refuse absolument pas le sentiment aux animaux. Au contraire, comme les humains, pour sentir, pour avoir des émotions, il suffit d'avoir un corps. Et un cœur qui s'échauffe, on peut l'expliquer par le corps. Donc les animaux ont des sentiments. Donc c'est certainement pas des machines. Donc les animaux ont des sentiments. Ça, c'est le premier point. Mais il y a beaucoup plus important que ça, c'est que vers la fin de sa vie, on est en 1649, Descartes écrit que... Il n'y a pas plus de raison pour dire que les animaux n'ont pas de pensée que pour dire qu'ils en ont.
Donc c'est absolument à l'encontre de ce qu'on croit.
À l'encontre, c'est-à-dire que pour Descartes, on est bien en train de parler de René Descartes. On ne peut pas dire que les animaux n'ont pas de pensée comme on ne peut pas dire qu'ils en ont. Mais d'une certaine façon, c'est la même chose pour les hommes. Pourquoi ? Parce que Descartes a inventé cette chose qu'on lui doit en philosophie, c'est que la pensée est indissociable de la conscience. C'est-à-dire que quand on pense, on sait qu'on est en train de penser. Et on pourrait le dire de plein de choses. Je sais que je suis en train de vous parler, je sais que je suis en train de vouloir quelque chose, etc. Et donc, pour savoir si un homme, un animal, pense, il faudrait, il le dit Descartes, rentrer à l'intérieur de lui. Et donc, percer l'intimité, le secret de sa conscience. Sonder les reins et les cœurs. Donc, on ne peut pas affirmer, dit Descartes, que les animaux n'ont pas de pensée, de même qu'on ne peut pas affirmer qu'ils en ont. On ne peut pas rentrer à l'intérieur et dire « ils pensent ou ils pensent pas ».
Et les animaux, ils sont très présents. Daria Schmidt, c'était évidemment une envie que vous aviez. Alors, il y a des scènes, il est en bonne compagnie, mais les animaux, on le disait un petit peu tout à l'heure, se moquent de lui.
Absolument. Et c'est, je vais commencer le récit en 1937, justement, quand les collections anthropologiques du Muséum d'Histoire Naturelle vont rejoindre un musée bien à eux, c'est le musée de l'homme. Et donc, la question était, est-ce que l'homme n'est pas un vertébré comme tous les autres, juste à ce moment, donc, où ils vont se séparer. Donc, les animaux veulent en découdre un peu avec la notion d'animal-machine.
Alors, il y a là un chimpanzé, il y a une girafe.
Voilà, des girafes Zarafa, qui est une des stars de la galerie, parce que tous ces animaux ont une histoire, comme le crâne de René Descartes, d'ailleurs. Et des histoires des fois aussi anciennes. Il ne s'agissait pas de charger Descartes justement de cette notion d'animal-machine. Il s'agissait de réfléchir actuellement, aujourd'hui, à la place de l'homme dans le vivant, de la même manière qu'il s'agissait de savoir si l'homme doit aller au musée de l'homme ou rester parmi les vertébrés.
Et là, c'est pas anecdotique, mais il était végétarien, j'ai vu ça.
Oui.
Et pourquoi, on sait ?
Ah bah alors, il était un médecin, il voulait vraiment prolonger la vie humaine, donc il était très très préoccupé par, par la diététique,
en fait, Descartes,
le sommeil.
Le sommeil, la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, en fait ce qui passionnait Descartes jusqu'à la toute fin de sa vie, c'est la médecine. Et il rêvait de la possibilité d'une longévité presque exponentielle. Il disait qu'il y avait encore des expériences à faire. Et alors, ce qui l'intéressait, c'était le cerveau. D'une certaine façon, il aurait pu être de nos jours neurochirurgien. Enfin, le cerveau et la médecine étaient vraiment son plus grand intérêt. Et je pense qu'il était végétarien par souci d'hygiène, de vie.
Absolument.
Eh bien, il est déjà l'heure de nous quitter, mesdames. J'en suis absolument désolée. On finira sur cette parole de La Fontaine qui s'est moquée de lui au sujet des animaux, mais qui disait de sa philosophie qu'elle était subtile, engageante et hardie. Vous signez toutes les deux pour ça ?
On signe. Signé contre signe.
Et vous signez par ailleurs Laurence de Villers, René Descartes, c'est un que sais-je donc, et Daria Schmidt, La tête de mort venue de Suède, c'est publié aux éditions R Libre. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.